rencontre avec nos évêques. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue. Thibaud Dautuy, le micro de Radio Présence pour votre émission régulière de rencontre avec l'un des évêques de notre si belle région. Et pendant tout ce mois de février, nous sommes accompagnés de Monseigneur Le Gall. Bonjour Monseigneur.
Bonjour Thibaud.
Nous sommes au début du mois de février et pourtant je vais déjà vous dire bon anniversaire Monseigneur.
Oh que c'est gentil, ça me touche tout particulièrement.
Bon anniversaire parce que le 26 février, donc dans quelques jours, vous allez avoir 75 ans. Et 75 ans, Monseigneur Le Gall, vous êtes en pleine forme et pourtant le droit canon vous oblige à présenter votre démission au pape François. Donc vous allez lui écrire une belle lettre.
Je vais faire de mon mieux, bien promis.
En disant, cher pape, je ne sais pas comment vous l'appelez, cher François, j'ai l'honneur de vous présenter ma démission de la charge d'évêque parce que j'ai atteint la limite d'âge. C'est ça que vous allez faire?
C'est en des mots peut-être plus personnalisés, oui. Mais le fond est cela. Le droit canonique demande que les évêques présente leur démission en effet à 75 ans, à l'approche des 75 ans, et puis comme ils demandent aux prêtres d'écrire à leur évêque dans leur diocèse pour faire la même chose.
Oui. Donc votre successeur, vous allez encore rester sans doute un petit peu, parce qu'à notre connaissance, à l'heure où on se parle, votre successeur à la cathèdre n'est pas nommé. Donc vous allez rester pendant une durée indéterminée. Mais comment on ne sait pas combien de temps ça va durer. Et comme aujourd'hui on est en février, que c'est là votre anniversaire, et bien voilà, nous avons décidé de consacrer ce cycle d'émissions et bien à vous.
Je suis ému et tout en étant à la fois heureux de bénir le Seigneur de m'avoir donné 75 ans et puis de m'avoir donné servir l'Église autant que j'ai pu dans diverses missions.
Oui, nous allons donc les parcourir tranquillement pendant ces quatre rendez-vous du mois de février. Et puis au travers de vos récits, de vos anecdotes peut-être, nous allons avoir aussi en filigrane. Nous prenons le temps d'évoquer vos deux grandes passions qui sont un peu le fil rouge de votre vie, la liturgie, parce que vous avez consacré beaucoup de temps et d'énergie, de nombreux ouvrages à la liturgie, et puis le dialogue interreligieux, qui en ce moment, depuis quelques temps, vous préoccupe particulièrement et pour lequel vous êtes très investi. Voilà.
C'est juste, bien vu.
Alors donc, si l'on revient très très loin en arrière, une légende dit que vous êtes breton. Mais en fait, c'est inexact.
Insolent.
Vous n'êtes pas né en Bretagne.
Insolent. Non, je ne suis pas né en Bretagne. Et c'est pour moi une forme de tare originelle. Mais en effet, je suis né en Normandie, du mauvais côté du Couesnon. Vous savez, le Couesnon, c'est la rivière qui sépare la Bretagne et la Normandie.
Tout à fait.
Et donc, mon père est ingénieur des ponts et chaussées. Il a construit des ponts, d'ailleurs, sur le Couesnon, je me permets de le préciser. Et mes premiers bains étaient autour Mont-Saint-Michel. Et comme vous savez, le Mont-Saint-Michel a été plus ou moins désenvasé ou désablé depuis quelques années, avec de grands travaux qui ont été faits. Et maintenant, le Couesnon donc entoure le Mont-Saint-Michel, il y a de deux côtés. Et ce qui fait que le Couesnon isole un petit peu le Mont-Saint-Michel, et dont l'histoire, je dois le reconnaître quand même, tout de même, est plutôt normande. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est une abbaye bénédictine, et donc tout va bien.
Tout va bien, parce qu'effectivement, disons-le tout de suite, vous êtes, pour ceux de nos auditeurs qui l'ignoraient, un moine bénédictin, et vous êtes rentré très tôt à l'abbaye de Carguenan. Des 17 ans.
C'est vrai, je reviens un instant sur la Normandie et la Bretagne, parce que je suis né en effet à Saint-Hilaire-du-Harcouët, dont la seule consonance
est tellement bretonne.
Et bretonne, Couët venant dire bois ou forêt en breton. Et mes parents sont tous les deux brestois. Toute ma famille est finistérienne. Donc, ce qui m'a délivré d'une forme de crise d'identité latente, c'est mes années de philosophie où j'ai appris à distinguer entre la substance et l'accident.
Donc vous êtes substantifiquement en bretonne.
Et l'accident, c'est l'accident et l'accident qui est secondaire par rapport. Et la substance étant clairement finistérienne, donc j'ai pu retrouver une vraie sérénité. Donc, comme vous le voyez.
C'est une très belle introduction. Et donc, de 0 à 17 ans, 17 ans, donc vous rentrez au noviciat, quelle a été votre vie? Elle a été bretonne, j'imagine.
Elle a été bretonne, et donc d'abord presque 8 ans en Normandie, quand même à Saint-Hilaire du Harcouët. Et puis mon père, ne voulant pas qu'on soit pensionnaire, a demandé un mouvement et est devenu responsable des quais et pour les ponts-chaussées et des quais et des ports à Lorient. Et donc, ce qui fait que j'ai fini mon primaire dans une école des Frères des écoles chrétiennes. Et ma famille étant chrétienne, catholique, pratiquante, dont j'ai été formé vraiment en profondeur dans l'enseignement catholique, tout le temps. Et j'ai été d'abord à Saint-Pédis, qui venait de s'ouvrir, une école primaire, puis ensuite à l'institution, on dirait maintenant lycée Saint-Louis de Lorient, où la plupart des professeurs étaient des prêtres, en soutane à l'époque. Je suis rentré à Saint-Louis de Lorient, à quel âge j'avais c'était dans les années 52, 53, par là.
Donc, entre la famille et l'éducation, vous aviez un bain, en quelque sorte. Alors, vous étiez.
Vraiment, vraiment, j'étais enfant de cœur, donc à mon lycée. Et je suis rentré, après ma confirmation, je me suis engagé un peu dans l'action catholique, c'est-à-dire de l'époque, c'était la JEC, la Jeunesse étudiante chrétienne. Et j'ai participé donc à différentes manière de se former, de nous former donc dans la GEC, avec des camps, des sessions, etc. Et j'étais dans la promotion où il y avait Jean-Yves Le Drian, qui était un ami, il était une classe au-dessous de moi, avec mon frère, moi je suis l'aîné de quatre garçons, et donc Jean-Yves Le Drian était très souvent à la maison, donc ses parents étaient engagés dans le camp catholique, et lors de la... en fin de terminale, ou en fin de première, en fin de première, ou avant d'entrer en terminale, en septembre 1962, 62, et donc c'est pas tout à fait hier, nous avons eu un camp de militants à la Trinité-sur-Mer. La Trinité-sur-Mer.
Et c'est là que vous avez découvert l'abbaye de
Et
Clairvanant?
dans la semaine en question, donc bah, je pensais devenir prêtre séculier depuis longtemps, ça avait mûri doucement, mais ça mûrissait.
Vous aviez déjà ça dans la tête, quand même, dans le
Vraiment,
cœur.
de manière sérieuse et approfondie, mais progressivement. Jusqu'au moment, en septembre de 1962, pendant les 6 ou 7 jours de camp de militants, comme on appelait ça, on a eu une journée dans une abbaye qui est entre Carnac et entre la Trinité-sur-Mer et Plouarnel exactement, près de Carnac, on a une abbaye bénédictine où on a passé la journée, on est venu en silence, etc. Et le père supérieur, qui n'était pas encore père abbé, est venu nous dire faire un topo sur la vie monastique. Donc, je ne garde pas un souvenir très précis, mais le lieu, le moment, etc., très, très, très nettement. Et c'est dans la silence qui a suivi, où on était encore en silence, que j'ai entendu, je vous rassure, je ne suis ni Jeanne d'Arc, je n'ai pas entendu de voix. Et je suis pas dans la dette, j'ai pas vu la Sainte Vierge non plus, je n'ai eu ni de voix, ni de vision, mais il y a quelque chose de très profond me disant, si Dieu est Dieu, il est nécessaire que des hommes ou des femmes ne vivent que pour lui.
Ah oui, c'est quand même précis.
C'était aussi,
Ah
c'était,
oui.
je mettrais ma main au feu,
Oui.
le mot que je trouve pour exprimer cela, c'est une intimation.
Oui.
Intimation, parce que le mot dit aussi quelque chose presque impératif,
Oui.
presque de fort, d'une invitation forte, mais en même temps intime. Intimation, intimation. J'ai pas trouvé de meilleur mot que celui-là. Et j'ai été surpris, surpris et pas forcément content.
C'est parce que vous aviez imaginé, c'était pas votre
Non,
plan.
c'est mon bâtiment. Je pensais être prêtre diocésain. Alors pourquoi a-t-il fallu, on en reviendra peut-être, a-t-il fallu 38 ans pour que je retrouve ensuite ma vocation première de
Oui,
prêtre
le
diocésain
diocèse,
sous la forme épiscopale?
oui.
Et ça, je
C'est
n'ai
une
pas
pirouette du
très payé. Ça,
Seigneur.
voilà. Mais toujours est-il que j'ai pas dit oui, j'ai dit ouais. Et puis, comme je dis souvent, j'ai dit ouais, bon, on va voir, on fera bien. Et j'ai fallu que je tire le A. Le S et tous les points de suspension qu'il y avait les uns après les autres.
pour aller jusqu'au oui.
Et ça pour dire oui, et je suis rentré au monastère un peu plus d'un an après. Un an et demi après, le temps d'abord de rentrer en Hippocagne. Donc, mon père, mes parents ont déménagé de Lorient à Orléans en ce moment-là en plus. C'était pas simple, j'étais leur aîné, donc c'était pas
Oui.
évident. Et entrer au monastère, c'est pas, on entre à vie, donc on n'a pas de vacances. J'avais jamais été pensionnaire, j'allais devenir pensionnaire à vie.
Donc, il a fallu aussi que vos parents assimilent cette nouvelle.
Oui, et ça n'a pas été facile. Et l'accord a été profondément il est donné, mais même la séparation a été plus difficile que je ne pensais moi-même. Vraiment.
Oui. Et alors, tout d'un coup, vous voilà, petit moignon bénédictin à
Voilà,
17 ans.
c'est ça.
Ces premiers jours,
Le
vous en
frère bonheur.
souvenez? Vous vous souvenez de ces premiers jours?
Ah, tout à fait. Tout à fait. Donc, j'ai pas été bien. J'étais à moitié malade, même pas à moitié, j'étais pleinement malade 10 jours après notre monastère. Et là, j'ai commencé par goûter la vie érémitique. C'est-à-dire, j'étais dans ma cellule où j'avais une mauvaise grippe, un peu plus de 42 fièvres. Et des spécialistes ont dû de vanne. Et j'entendais dire qu'on songeait à me donner la bière avant que je meure.
Ah oui,
Comme vous
à tout de
dites,
même.
c'était quand même, c'était assez sérieux. Donc j'ai fini par aller mieux, grâce aux oranges qu'on m'a portées, et puis, etc. Et j'ai fini par aller mieux. Et puis le père abbé est venu dans ma cellule un matin, en fin de matinée, et il m'a dit, vos parents, qui étaient à Orléans, donc demandent à ce que vous alliez chez eux pour la convalescence. À peu près comme j'allais mieux, donc pour vous reposer, etc. Et le père abbé me dit, je veux bien, mais si vous allez pour cette convalescence, je ne vous reprends pas avant un an. Et là, je sais pas, est-ce que c'est l'amour-propre, est-ce que c'est de la grâce de Dieu, il y a de tout ça de me mêler, mais j'ai dit, je reste. Je reste, je n'irai pas en convalescence. Et 3 minutes après, un père venait me servir quelque chose, demander quelque chose, et du noviciat, et qui m'a trouvé en pleurs. C'était le contre-coup. Mais je ne sais pas si je serais, étant parti chez mes parents pour un an, si j'aurais eu le courage de revenir. Alors, qu'aurait donné ma vie dit, alors, vous voyez, la vie, quelquefois, se joue, il y a des seuils très importants.
C'est un très très beau seuil. En tout cas, merci Monseigneur. On va conclure sur cette belle étape de
Une
votre vie,
charnière,
sur cette étape charnière de votre vie. On se retrouve la semaine prochaine pour continuer ce récit avec vous. Et merci en tout cas, Monseigneur, de vous y prêter.
bien volontiers.
Rencontre avec nos évêques.